VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 3 août 2017. Sénégal, la majorité remporte les législatives à Dakar. Résultat contesté par le camp du maire Khalifa Sall. Pretoria annonce la libération du Sud-Africain enlevé au Mali par Al-Qaïda en 2011. 44 000 Rwandais de la diaspora votent ce jeudi pour la présidentielle qui se tiendra demain au Rwanda. Téhéran qualifie les sanctions américaines de violation de l'accord nucléaire. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Au Rwanda, près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain. Mais le vote de la diaspora a commencé aujourd'hui. Il y a trois candidats, dont le président sortant Paul Kagame. Le point avec Eki Abadou.
Quelques 44 000 Rwandais de la diaspora ont commencé leur vote. Paul Kagame s'est attelé à entretenir des liens très étroits avec cette diaspora appelée la sixième province du Rwanda. Le Rwanda Day, une manifestation régulièrement organisée par Kigali à l'étranger, est un exemple des nombreuses opérations de séduction. Trois candidatures en lice, mais seules les couleurs du Front patriotique rwandais au pouvoir sont visibles au pays des mille collines. Paul Kagame, qui tient le pays d'une main de fer, est donné largement favori. En 2010, il avait remporté les présidentielles avec 93% des voix. Il aura face à lui Franck Habineza du Parti démocratique vert et Philippe Payimana, un candidat indépendant. Ses opposants sont peu connus, mais permettent à l'opposition de sortir de l'ombre.
Au Sénégal, la coalition au pouvoir a remporté à Dakar les élections législatives de dimanche, selon des résultats partiels, immédiatement contestés par le camp du maire de la capitale, Khalifa Sall, en prison pour détournement de fonds présumés. La majorité a remporté le scrutin à Dakar avec plus de 114 000 voix contre près de 112 000. La capitale compte 7 députés sur les 165 à l'Assemblée nationale. La majorité a déjà revendiqué la victoire dans 42 sur les 45 départements du pays. Nous y reviendrons dans la partie magazine. 1 400 000 Mauritaniens votent samedi dans un référendum constitutionnel convoqué par le président Mohamed Ould Abdelaziz, une consultation jugée illégale par une partie de l'opposition. Cette révision porte sur le remplacement du Sénat par des conseils régionaux élus, la suppression de la Haute Cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique et une modification du drapeau national. L'otage sud-africain détenu depuis 6 ans par ACMI a été libéré, selon une information confirmée par Pretoria. Abdourahmane Dia.
Selon Maïti Koana Mashabane, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Stéphane Makoen a été libéré samedi. Elle précise que l'Afrique du Sud n'a payé aucune rançon en échange de sa libération qui fait suite à celle du Suédois Johan Gustafsson en juin. Le mois dernier, le Sud-Africain et 5 autres otages étaient apparus sur une vidéo publiée par les djihadistes juste avant l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Mali. Chema Gowen, 42 ans, a été enlevé à Tombouctou le 25 novembre 2011. L'enlèvement a été revendiqué par le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI. 3 autres personnes avaient été kidnappées en même temps que le Sud-Africain. Il s'agit d'un Néerlandais libéré en 2015 par les forces françaises, du Suédois Johan Gustafsson relâché fin juin cette année et un Allemand tué en tentant de résister à ses ravisseurs à Tombouctou. Une religieuse catholique colombienne, une femme suisse, un médecin australien et un roumain sont toujours entre les mains de groupes armés opérant au Mali.
Le président du Niger, Mamadou Issoufou, s'est inquiété de la démographie galopante dans son pays qui détient le plus fort taux de natalité au monde avec 7,6 enfants par femme. Au rythme actuel, la population de notre pays doublerait en moins de 18 ans et pourrait atteindre plus de 40 millions en 2035. Le bon sens nous commande de réfléchir dès à présent à ces horizons, a prévenu le président hier soir dans un message à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance du Niger. En RDC, 6 pêcheurs sont portés disparus dans le naufrage de leur embarcation sur la partie congolaise du lac Albert. 5 autres ont été secourus et les recherches continuent. Un vent violent serait à l'origine du naufrage qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. La crise provoquée par la contestation anglophone au Cameroun pourrait affecter l'élection présidentielle prévue fin 2018 et la CAN 2019, selon un rapport d'International Crisis Group. Lancé en novembre par des professeurs et des juristes, la contestation revendique le retour au fédéralisme ou le séparatisme avec création d'un nouvel État. Elle avait abouti à une coupure d'Internet de plus de 3 mois dans les 2 régions anglophones, la plus longue jamais enregistrée en Afrique. L'ONG allemande Jugendrettet, dont le bateau a été saisi hier par la justice italienne, la soupçonnant de liens directs avec des passeurs de migrants, a dénoncé le fait de ne plus pouvoir sauver des vies, selon ses termes. Pour nous, le sauvetage de vies humaines est et restera notre première priorité, s'est défendue sur son compte Twitter, l'organisation fondée par des étudiants allemands.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Téhéran dénonce les nouvelles sanctions américaines et a menacé de prendre des mesures de rétorsion. Le président Hassan Rouhani doit prêter serment samedi devant le Parlement. Morgane Guerrier nous en dit plus.
Lors d'une réunion avec les 545 membres de l'Assemblée constituante élue dimanche, M. Maduro a déclaré que la séance inaugurale sera organisée dans la paix, dans la tranquillité et avec tout le protocole nécessaire vendredi prochain. La procureure générale, Luisa Ortega, a indiqué qu'elle a ouvert une enquête sur les suspicions de fraude lors de l'élection de cette Assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. L'entreprise chargée des opérations de vote dénonce une manipulation. L'opposition compte continuer à siéger au Parlement et a appelé à manifester pour dénoncer le caractère illégitime de la constituante. Le scrutin de dimanche a suscité un tollé au niveau international. L'Union européenne refuse de reconnaître la nouvelle assemblée. L'administration américaine condamne les actions de la dictature Maduro. Plus de 120 personnes ont été tuées en 4 mois de manifestations contre le président socialiste.
Une trêve dans la province de Homs en Syrie devrait entrer en vigueur ce jeudi après un accord entre l'armée russe et les rebelles sur la création d'une 3e zone de désescalade, a annoncé le ministère russe de la Défense. Conformément à l'accord négocié au Caire fin juillet, les groupes de l'opposition modérée et les détachements des forces gouvernementales vont complètement cesser le feu à partir de midi dans cette zone du nord de la ville, a déclaré le porte-parole du ministère Igor Konachenkov. Cette zone comprend une population de 147 000 habitants, selon le général russe. La police israélienne a interrogé hier l'épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Elle est soupçonnée d'avoir détourné de l'argent public pour des dépenses privées, selon les médias, qui affirment que M. Netanyahou pourrait faire face à un témoignage à charge de son ancien chef de cabinet. Le capitaine des jeunes afghanes lauréate d'un concours de robotique à Washington a perdu son père dans l'attentat du groupe État islamique mardi contre une mosquée chiite de Herat, annoncé leur entraîneur. Le père de Fatema Kaderian figure au nombre des 33 morts et 66 blessés, dont certains dans un état critique. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a reporté à vendredi la séance inaugurale de l'Assemblée constituante rejetée par ses adversaires. Le point avec Solange Niamoulissa.
Nous considérons que l'accord nucléaire a été violé et allons réagir de manière appropriée, a déclaré Abbas Araghchi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Selon lui, le Parlement va finaliser sa propre loi contre les États-Unis avec un projet pour renforcer le programme balistique iranien et la force Quds des gardiens de la révolution, armée d'élite du régime. C'est en réponse aux nouvelles sanctions imposées hier par le président Donald Trump qui concernent les gardiens de la révolution, le programme balistique, la situation des droits de l'homme et le soutien au Hezbollah libanais, considérés comme terroristes par Washington. L'Iran n'entretient plus de relations diplomatiques avec les États-Unis depuis 1980. Par ailleurs, le guide suprême Ali Khamenei a approuvé l'élection en mai de M. Hassan Rouhani, qui prêtera serment samedi devant le Parlement.
Voilà, c'était donc Morgane Guiriec pour parler de Téhéran qui dénonce les nouvelles sanctions américaines et a menacé de prendre des mesures de rétorsion. Le président Hassan Rouhani devait donc prêter serment, doit prêter serment samedi devant le Parlement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Anastasie Tudiech.
L'économie sénégalaise a enregistré une légère perte de compétitivité de 0,5% durant le mois de mai 2017, comparativement au mois précédent, selon la direction de la prévision et des études économiques. À l'origine, l'effet de l'appréciation du franc CFA par rapport aux monnaies des pays partenaires. Une société chinoise va investir 53 milliards de francs CFA dans la production de noix de cajou à Loudima, au sud du Congo-Brazzaville. Le bail serait de 60 ans pour une exploitation de plus de 22 000 hectares. Un contrat a été signé mercredi à Brazzaville entre le ministre congolais de l'Agriculture Henri Djombo et Guo Li de la société chinoise CELTS Industrie SARL. Au Cameroun, la construction du marché de Deido à Douala nécessitera un investissement de 6 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la communauté urbaine de Douala au terme d'une délibération du conseil municipal. Après l'obtention de l'accord du financement, les travaux proprement dits devraient débuter en 2018. Le ministre des Ressources minières d'Afrique du Sud, Mose Benzizouane, a signé hier avec son hôte centrafricain Léopold Mboli Fatran un protocole d'accord pour renforcer la coopération minière entre les deux pays. Grâce à cet accord, la RCA bénéficiera de l'expertise sud-africaine dans l'exploitation et l'exploration minière. Avant la crise, les Sud-Africains avaient des entreprises minières en Centrafrique, comme De Beers, qui exploitait le diamant à l'est, et d'autres dans l'ouest investissaient dans l'exploration pétrolière.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors Neymar quitte officiellement Barcelone.
Eh oui, l'attaquant brésilien Neymar a formalisé son départ du FC Barcelone au terme d'une journée à suspense en payant directement au club les 222 millions d'euros de la clause libératoire prévue dans son contrat. C'est ce que décrit un communiqué du Barça. Ce paiement a eu lieu au terme d'une journée de suspense. Neymar devait normalement payer le montant de cette clause libératoire à la Ligue espagnole de football qui elle-même aurait dû le transférer évidemment au club vendeur. Mais la Liga avait rejeté ce matin le chèque. Eh bien le club indique ce soir qu'il enverra à l'UEFA tous les détails de cette opération afin de déterminer les responsabilités disciplinaires émanant de ce cas. Le joueur de 25 ans reprend ainsi sa liberté pour pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain. Il est désormais attendu à Paris demain, selon des sources aéroportuaires dans la capitale française, pour finaliser son transfert. Le PSG espère toujours présenter Neymar ce week-end pour la reprise de la Ligue 1.
Et c'est le jour de la visite du président de la Confédération de football au Burkina Faso.
Ah oui, le président Ahmad est en visite au Burkina pour 3 jours. Au menu de sa visite, une rencontre avec le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. On écoute Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football.
Le président Ahmad aura l'occasion d'exposer cette nouvelle vision du football africain à notre comité exécutif. Et je pense que les membres fédéraux ne manqueront pas à leur tour de poser quelques questions au président de la CAF.
Peut-on analyser cette visite comme étant un signe de caution à la nouvelle équipe dirigeante de la FBF?
C'est vraiment un non-sens. Ceux qui avancent cette thèse, vraiment, ils se tombent lourdement. On a nullement besoin d'une quelconque caution générale, d'où que ce soit. Le comité exécutif a été légitimement élu à une très large majorité.
Voilà, Sita Sangaré, le président de la FBF, il était joint par Yacouba Ouedraogo pour VOA Afrique.
Et pour terminer, Nicolas, un nouvel abandon avant les championnats du monde d'athlétisme de Londres.
Et oui, le sprinteur canadien André De Grasse, touché aux ischio-jambiers, a déclaré forfait pour ces mondiaux qui débutent demain dans la capitale britannique. C'est ce qu'annonce la Fédération canadienne. Considéré comme un potentiel successeur du Usain Bolt, futur retraité à l'issue de ces mondiaux, De Grasse était un sérieux prétendant au titre sur 100 et 200 mètres. Cette année, De Grasse avait notamment signé un prodigieux 9 secondes et 69 centièmes sur 100 mètres. C'était le 18 juin à Stockholm, avec toutefois un vent favorable, plus 4,8 mètres par seconde, ce qui n'avait pas permis d'homologuer le chrono.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Législative au Sénégal. La coalition présidentielle a été déclarée victorieuse à Dakar après 3 jours d'attente et une interminable guerre des chiffres. Le scrutin a ainsi permis au pouvoir de reconquérir le bastion électoral le plus important du pays. Avec cette défaite, Khalifa Sall, le maire de Dakar, perd pour la première fois son leadership dans la capitale. Ses partisans sont quant à eux convaincus que les résultats ont été biaisés par le pouvoir, avec la complicité de l'administration territoriale. Le point avec notre correspondant, c'est Dina Abagué.
La coalition Manko Taxaw au Sénégal dénonce vigoureusement la manipulation des suffrages par le régime. Pour Moussa Taï, conseiller politique du maire de Dakar, il n'est pas question que leur coalition accepte cette conspiration.
Au niveau de Passé Assani, il y a eu manipulation de procès-verbaux. Hier, la CEDAW de Dakar a fait convoquer tous les représentants de vote pour leur demander de signer de nouveaux PV. C'est flagrant ce qui s'est passé à Dakar. Donc ils ont maquillé des chiffres. Ces résultats sont sortis hier à 5h du matin, ou ce matin même, ce qui est quand même une première au Sénégal, si l'on sait que les résultats sont depuis 2 jours.
Alioune Badara Diouf, député et mandataire de Benno Bokou Yakar, affirme que la commission de recensement des votes a procédé au dépouillement en présence de toutes les parties prenantes.
Contestation dans la salle, il n'y en a pas. Parce que lors du dépouillement, du début à la fin, depuis le dimanche, il n'y a pas eu de contestation de chiffres. Donc tout le monde est d'accord, les procès-verbaux, n'est-ce pas, sont pratiquement identiques, que ce soit les coalitions, la Sénat, n'est-ce pas, et l'administration. Ils ont détenu pratiquement les mêmes chiffres. Donc par rapport à ça, on n'a pas de problème. Dakar compte aujourd'hui 19 communes. Et Benno Bokou Yakar a pu gagner les 12 communes.
Ces allégations sont réfutées par Moussa Taï, qui indique que la coalition Manko Taxaw au Sénégal compte utiliser tous les recours possibles pour avoir gain de cause.
Naturellement, la coalition Manko Taxaw au Sénégal réfute ces résultats-là. Nous ne les reconnaissons pas parce que nous pensons qu'ils sont truqués. C'est une faute de la coalition Benno Bokou Yakar. Et nous allons utiliser toutes les voies de recours possibles. Non seulement nous allons attaquer la décision au niveau de la Cour d'appel, et même demain au niveau du Conseil constitutionnel, mais également politiquement, nous prendrons toutes nos dispositions pour nous opposer à cette forfaiture.
Après plusieurs jours d'attente, les résultats des élections législatives du 30 juillet 2017 ont consacré la victoire de la coalition présidentielle dans 42 des 45 départements que compte le pays. À Dakar, l'opposition fidèle au maire de la capitale conteste les chiffres et accuse le pouvoir de hold-up électoral. Les partisans de Khalifa Sall annoncent une bataille devant les hautes juridictions sénégalaises. Sédina Abangueï, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Malgré les pronostics disant déjà gagnants, le président rwandais Paul Kagame à la présidentielle de vendredi, le leader du Parti vert affirme croire en la démocratie dans le futur au Rwanda. L'un des 3 candidats en lice, Frank Habineza, dont le parti d'opposition a été autorisé il y a 4 ans, dit vouloir un changement notoire, grâce notamment à la participation des citoyens qu'il compte impliquer dans la gestion du pays s'il remportait la présidentielle. Notre envoyé spécial à Kigali, Charlie Kazereka, lui a tendu le micro.
Et quelle aujourd'hui est la force de ces partis politiques qui n'a eu l'autorisation de fonctionner il y a seulement 4 ans et qui fait face à un candidat très populaire?
Les partis démocratiques veulent devenir un grand parti, mais on a commencé en 2009, c'était difficile pour notre parti, on a rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup d'emprisonnements. Moi aussi j'étais obligé d'aller en exil en Suède, qui a resté là-bas pour 10 ans. Nous avons pour maintenant de 2 millions de membres et maintenant c'est notre première élection.
Les partis démocratiques verts s'est heurté à des obstacles pendant la campagne électorale. Même des espaces publics étaient d'avance occupés par les partis au pouvoir, sans aussi oublier les moyens financiers.
Les 4 premiers jours, c'était difficile parce que les autorités locales et nous, ils ont refusé les peuples de venir. Mais aussi, ils ont refusé les endroits et ils nous ont envoyés à les cimetières. Et mais aussi, nous n'avons pas les mêmes moyens de financement comme les partis au pouvoir. Les partis au pouvoir, ils étaient au pouvoir depuis 23 ans.
Abineza a un projet de société qu'il compte mettre en place malgré les peu de chances qu'il a pour être élu face à Kagame.
On va aussi faire un tribunal spécial pour voir si c'est possible de libérer les prisonniers politiques. On va aussi fermer toutes les prisons illégales au Rwanda. On va faire beaucoup de choses pour libérer les peuples rwandais.
Les votes, c'est pour ce vendredi 4 août. Les partis verts souhaitent une élection libre et transparente, sinon la justice va trancher. Plus de 500 observateurs de ces partis seront envoyés dans différents districts et villes du Rwanda.
Oui, nous disons que si les élections passent au milieu de free and fair elections, on va accepter les résultats. Mais si il y a les choses qui n'est pas transparentes, on ne peut pas accepter. On peut aller au tribunal. Nous sommes dans le processus d'envoyer notre observateur de parti dans les districts pour observer les élections.
Première fois au Rwanda, un parti d'opposition participe à une élection. Avec cette autorisation suivie par la validation de sa candidature, Franck pense que c'est le début d'un processus démocratique ici au Rwanda.
Oui, la démocratie, c'est un processus, ce n'est pas un événement. Et tout ça, même aussi les élections, est signe de la démocratie. On a fait tout pour être candidat. L'objectif démocratique a commencé au Rwanda.
Quelques 6,9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes ce vendredi 4 août pour une élection présidentielle promise au président sortant, grand favori Paul Kagame, qui dirige le Rwanda depuis plus de 2 décennies. Shari Kasereka depuis Kigali pour la VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
République démocratique du Congo, Sud Kivu. Suite à la journée ville morte à Bukavu hier, décrétée par la coalition Société civile, acteurs politiques de l'opposition et mouvements citoyens, les leaders de ce rassemblement devaient déposer ce jeudi un mémorandum à la Commission électorale nationale indépendante, telle qu'initialement prévue le 31 juillet. Plusieurs activités étaient paralysées mercredi en réponse à la répression policière de la marche pacifique du 31 juillet, qui a fait une dizaine de blessés, dont certains par balles. Voici un reportage d'Ernest Mouérou à Bukavu.
Les activités socio-économiques ont été partiellement paralysées dans la ville de Bukavu ce 2 août. Bien que les transports en commun et la circulation des piétons étaient fluides, la plupart des magasins, boutiques, institutions de microfinance et banques sont restés fermés. L'administration publique a fonctionné normalement, à l'exception de la direction provinciale des mobilisations et encadrement des recettes, dont les agents sont en grève. Le grand marché des Kadutu, qui draine le plus grand nombre d'acheteurs et de vendeurs, n'a pas ouvert, mais d'autres petits marchés du centre-ville ont fonctionné presque normalement, de même que certaines stations qui vendent du carburant. À titre individuel, plus d'un Bukavien a jugé bon de ne pas travailler. Un motif de satisfaction pour Patient Bachombe, président du bureau des coordinations de la société civile.
Nous sommes très satisfaits parce que la population a répondu présent. Ils sont restés à la maison afin de montrer que réellement nous voulons les élections, nous voulons un calendrier. Et nous nous insurgeons contre cette manière d'agir des autorités politiques et administratives qui veulent restreindre les droits des manifestants. temps. Et c'est un message que nous lançons au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et nous exigeons qu'on nous laisse aller déposer notre mémorandum à la CENI. C'est notre droit.
Pour le directeur des cabinets du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Josué Bodji, toute revendication est légitime en démocratie, mais une journée ville morte est un manque à gagner, aussi bien pour l'État que la société civile.
Le sentiment d'indignation exprimé à travers la ville morte, je pense que c'est un message suffisant et que des mesures seront prises pour que lors d'autres manifestations, on puisse éviter ce genre de situation. Mais je pense que des actions pareilles, c'est un manque à gagner pour tout le monde. D'abord, pour les commerçants, parce que c'est eux d'abord qui n'ont pas vendu. Hein. C'est une journée de perdu aussi en termes des taxes qu'on devait aller recouvrer chez les différents commerçants. Ça veut dire que même les particuliers qui avaient des courses à faire, enfin, ces achats, tout ça s'est bloqué. Donc c'est pour cela que ce n'est pas la voie la mieux usitée pour manifester son indignation.
L'après-midi, la ville s'anime peu à peu. Les besoins de subsistance pour une population qui a vu sa monnaie perdre de moitié son pouvoir d'achat obligent les moins téméraires à vaquer à leurs occupations pour trouver de quoi manger les soirs. Et comment en sommes-nous arrivés à cette journée ville morte ? Amos Bissimoua du mouvement Réveil des Indignés explique.
Quand nous avons organisé une marche pacifique réclamant la publication du calendrier électoral, les autorités de la ville, même si nous avons adressé une lettre d'information comme le prévoit notre constitution, elles ont envoyé des policiers lourdement armés qui ont commencé à nous tirer des bombes lacrymogènes mais aussi des balles réelles, causant ainsi plus de 11 blessés graves, ce qui nous a poussé d'organiser cette journée ville morte aujourd'hui, prouvant notre indignation. Nous n'allons pas désarmer malgré ce que nous avons connu comme répression.
La coalition Société Civile, acteurs politiques de l'opposition et mouvements citoyens, suspend toute collaboration avec les autorités provinciales et municipales. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Les agents du centre hospitalier universitaire de Brazzaville poursuivent leur grève illimitée avec un service minimum. De nombreux patients sont sans assistance médicale. Le personnel de Brazzaville réclame 3 mois de salaire impayé et des avantages sociaux. Selon les syndicats, aucune suite n'a été donnée jusqu'à présent. Notre correspondante Gwelan Goussou s'est rendue sur place au CHU de la capitale congolaise.
Ce triste spectacle peut devenir le quotidien au CHU de Brazzaville si on y prend garde. Depuis le 1er août, les agents du plus grand établissement hospitalier du Congo observent une grève pour réclamer 3 mois de salaire impayé.
Non, aujourd'hui on ne reçoit pas. Aujourd'hui on reçoit pas, c'est fermé. Parce que nous sommes là, debout là, bon, comme il n'y a pas de salaire, nous sommes en grève donc.
C'est fermé?
Dans les sombres couloirs du CHU, quelques rares silhouettes en blouse blanche, des bureaux déserts, le service des urgences fermé. Même au bloc d'accouchement, le personnel n'est pas disponible. Les agents qui arrivent au lieu du travail font du service minimum.
Quand même, on a fait le service minimum. Donc, il n'y a pas assez de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnels qui ne sont pas venus. Donc, on est au nombre de 2 par équipe dans les services. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a trop de travail. Beaucoup de malades dans les services, mais il y a 2 par équipe.
Et les malades, eux, ne savent plus à quel saint se vouer. Cette femme explique en Lingala que les malades décèdent dans la nuit, faute d'assistance médicale. Arrivé sur un fauteuil roulant, un autre malade est venu enlever le plâtre de son pied. Mais personne pour le recevoir. Il est tout triste sur le perron de l'hôpital.
Je suis perdu, désespéré parce que je dois reprendre le boulot lundi prochain. Et on ne sait pas quand est-ce que va finir leur grève. On attend. Ouais, je suis pris en otage, hein, carrément. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Bon, là, on m'a dit d'attendre carrément la fin de la grève. C'est vraiment malheureux.
Le responsable syndical des médecins du CHU, Dr Albert Ngatse Oko, revient sur les revendications des travailleurs.
Non, rien d'autre que le salaire. Bon, je crois que le pays connaît certainement des difficultés au niveau des finances, si bien que les travailleurs ont déjà un certain nombre de mois sans être payés et ça fait quand même coincer. C'est pour cela qu'ils sont excités, énervés. Ils essaient de maintenir sans pouvoir les contenir. Évidemment, on est arrivé à la date butoir.
Sur les 3 mois de salaire dus, les agents sont prêts à en accepter 2 avant de reprendre le service. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Sims Loumami. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.